ce que j'aimerais peut-être faire aujourd'hui avec vous, c'est plutôt essayer de livrer un témoignage. Donc moi, j'ai commencé à travailler, évidemment, avant que le net n'apparaisse. Et j'ai bien vu que ce nouveau média a transformé complètement la façon que j'avais de délivrer du contenu ou de communiquer sur du contenu. Alors j'ai commencé, comme beaucoup, j'ai commencé sur du papier. J'ai commencé à écrire des articles dans des journaux. J'ai vu apparaître effectivement en 2005 une autre façon de délivrer du contenu. Et je dois dire, pour être tout à fait honnête avec vous, que si j'ai commencé à m'intéresser au web, c'est que j'étais frustré du papier. J'arrivais à publier quelques papiers par an, quelques dizaines de papiers par an. Mais comme vous le savez, c'est assez compliqué. Il n'y a pas de débouché gigantesque et la place physique des papiers est limitée. Et j'écrivais. Il y a beaucoup de papiers qui étaient refusés. Et donc je me suis dit tout simplement, plutôt que de garder ces papiers sous la main et de ne pas les publier, pourquoi ne pas m'auto-publier ? Et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis 2005, en écrivant quasiment quotidiennement des petits billets. Et là, ce que j'aimerais vous livrer, c'est effectivement le ressenti que j'ai eu en passant déjà du papier au billet. Après, je vous parlerai des étapes qui suivent, qui sont assez surprenantes, en tout cas pour moi, qui était venu du papier. Alors, d'abord, qu'est-ce qui a véritablement changé quand je suis passé, disons, du papier au billet de blog ? Ben, y a des différences qui sont évidentes, que vous connaissez tous. Le caractère d'abord multimédia des billets, ce qui est évidemment impossible dans un journal papier. Il y a évidemment, ça c'est vraiment la palisse, mais enfin bon, évidemment les liens hyperliens, l'écriture hypertexte, qui a évidemment changé complètement la façon que j'avais de rédiger, de structurer un billet, un papier dans les journaux, ben je voyais bien que les choses changeaient complètement ici. Le fait de mettre des hyperliens, ça permet aussi de ne pas s'étendre sur des choses que j'aurais été obligé d'expliquer sur le papier. Là, je renvoie sur un lien et on va compléter, si on veut, l'information qu'on n'aurait pas tout à fait compris. Je dois aussi avouer que la forme a beaucoup changé dans l'écriture. J'écrivais des pavés, des pâtés. J'ai aussi écrit des bouquins. Moi, j'ai commencé par écrire des bouquins, finalement 3-4 bouquins. Et j'ai vu que d'année en année, le volume de ce que j'écrivais commençait à se réduire. Donc les papiers, disons même dans la presse, ça va du 3000, 5000, 10000 signes. Et je dois avouer que plus ça allait, plus mes billets commençaient à plutôt s'approcher du 3000 signes, voire du 2000 signes, voire du 1000 signes, quitte à me réduire aujourd'hui quasiment à du Twitter, du 140 signes. Donc j'ai bien vu qu'il y a une sorte de compression des papiers, des petits billets que je pouvais commencer à écrire. Et puis il y a aussi d'autres grandes modifications, c'est le fait que quand j'ai commencé à écrire des billets, on est obligé, c'est ce que vous apprenez aussi, à formater les billets pour qu'ils soient bien référencés, tout simplement, qu'ils soient bien référencés par Google. Et ça nécessite évidemment une certaine contrainte de présentation du contenu, qui n'existerait pas si Google nous imposait pas de mettre des informations plus ou moins synthétiques en titre, avec les quelques premières lignes en introduction, etc., etc. Et puis aussi, grande révolution, grand changement, on n'y pense pas trop, mais moi, ça m'a perturbé pendant pas mal d'années. Le fait que quand on publie un article dans la presse, ben on l'écrit, puis c'est fini. Il peut y avoir des correctifs la semaine qui suit s'il y a des procès, par exemple. Là, on peut éventuellement modifier la semaine qui suit le papier parce qu'on a diffamé quelqu'un ou on a fait une erreur sur quelqu'un. Mais c'est assez exceptionnel. Les papiers sont statiques. La particularité des billets sur le net, c'est qu'ils ne sont pas forcément statiques. Ils sont dynamiques. Ça change un peu la nature de la relation qu'on peut avoir à ce contenu-là, s'il est modulable et qu'il peut se modifier dans le temps. Ce n'est pas du tout la même logique. Ce qui est écrit à un moment T sur un blog n'est pas forcément le cas à un T plus 10. C'est le cas, évidemment, de Wikipédia. Alors, évidemment, on se dit, si les choses peuvent se modifier au jour le jour, est-ce que ça amoindrit pas la qualité de ce qu'on écrit si c'est pas stable ? Ben, regardez Wikipédia. Wikipédia, c'est plus ou moins stable. Et le bilan général de Wikipédia est quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, ça n'est pas quelque chose de statique, mais vraiment dynamique. Et puis, il y a évidemment une autre grande révolution qui est apparue avec le net et les billets, c'est le RSS, qui change énormément la façon qu'on a d'appréhender le contenu qu'on délivre. Maintenant, aujourd'hui, quand j'écris un billet ou quelque chose, un contenu sur le web, j'ai parfaitement conscience que j'écris quelque chose et qu'en plus, je diffuse un flux. C'est ce qu'on appelle le RSS. Et ce flux, qui est diffusé au moment où je publie le billet, est quelque chose auquel les gens peuvent s'abonner. Et quand ils s'abonnent, ils n'ont plus à venir à moi pour lire ce que j'écris, mais ce que j'écris vient à eux. Ça aussi, c'est une différence fondamentale dans la façon qu'on a de travailler le contenu qu'on écrit. Maintenant, je sais que moi, je peux aussi écrire en fonction du fait que je sais qu'il y a un flux qui est émis à partir de mon contenu. Et là, j'en viens un peu à une deuxième phase qui est assez surprenante et un peu inattendue. C'est qu'une fois qu'on a écrit et qu'on émet ce petit flux RSS auquel les gens peuvent s'abonner, eh bien, on arrive à une phase où il faut commencer à gérer ce flux. Parce que ce flux RSS peut être diffusé d'une façon simple, où les gens s'abonnent au RSS, mais je peux aussi le relayer dans mes différents réseaux sociaux. Pour faire simple, je publie un papier sur mon blog et j'en fais une mention sur Facebook, sur Twitter ou sur d'autres plateformes sociales. En faisant ça, je me détache de mon contenu pour gérer une diffusion. Une diffusion de mon contenu. Je gère sa diffusion. Il y a un mot qui est un peu à la mode. On parle de pollinisation du contenu. C'est le fait de... On travaille son contenu et après, on va réfléchir à comment on le diffuse pour atteindre la cible optimale. En sachant que la cible optimale, pour moi, est évidemment mon réseau social. Les gens qui sont potentiellement intéressés par ce que j'écris, c'est pas tout le monde. C'est ceux qui sont déjà dans mon réseau social. C'est ma cible première. Donc il y a la gestion du flux qui a beaucoup changé. Le fait que maintenant on écrit du contenu billet et on le diffuse. Et puis il y a une troisième phase dans laquelle je suis arrivé maintenant, qui est la gestion de son identité en ligne. Parce qu'à force de diffuser du contenu dans mes réseaux sociaux, je suis en fait en train de dessiner les contours de mon identité en ligne. Les gens qui me suivent sur Facebook commencent à avoir une image de moi avec l'amoncellement des contenus que je leur envoie. Et donc j'en suis arrivé aujourd'hui, on en est plus ou moins tous là, consciemment ou inconsciemment, quand on produit du contenu, on est en fait en train de, comme je disais, de dessiner un peu les pourtours de notre identité en ligne. Et la gestion de notre identité en ligne, aujourd'hui, fera partie de votre boulot, quel que soit votre travail, si vous vous exprimez en ligne, il faudra que vous réfléchissiez à un moment ou à un autre à la gestion de votre identité en ligne. Si vous ne le faites pas, d'autres peuvent le faire à votre place. Et ça peut être dramatique si on écrit des choses sur vous qui sont négatives. Donc il vaut mieux que ce soit vous qui mettez du contenu, vous concernant, notamment. Je ne vais pas trop m'étendre, mais j'ai encore 2-3 petites choses à dire. Je ne vais pas non plus prendre trop de temps, ça va encore. Alors, ça c'est pour ce que j'ai vécu à titre personnel, donc dans cet arc qui date du milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et qui implique donc une nouvelle forme à la fois d'écriture, de méta-écriture, enfin, on peut employer beaucoup de termes, pour l'instant tout n'est pas vraiment établi là-dessus. Mais j'aimerais revenir peut-être sur quelques points qui sont assez révolutionnaires dans l'espace journalistique, les nouvelles formes de journalisme qu'il y a aujourd'hui. Je vais vous en citer juste quelques-uns rapidement, que je trouve particulièrement intéressants. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler, ne serait-ce que, je ne sais pas, du journalisme de lien. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler ? Ça vous dit rien ? Bon. Le journalisme de lien, c'est tout bête. C'est des journalistes ou des gens comme moi qui, au lieu de rédiger des contenus, des billets de 5000 signes, de 3000 signes, etc., ne diffusent qu'un lien. Un lien pertinent. Un lien qui aurait pu faire l'objet, si je suis journaliste, qui aurait pu faire l'objet d'un article. Mais dont j'ai décidé que je ne vais pas faire un article, mais je diffuse mon contenu à ma communauté. Plutôt que de garder ce lien que je trouve extraordinaire sous la main et de me dire « Tiens, je vais faire un gros papier ou je vais essayer de paraphraser ce qu'il y a dans ce contenu-là », j'ai l'honnêteté de dire « Bon voilà, j'ai trouvé un lien extraordinaire et avant même d'écrire le papier autour de ce lien-là, je vous le diffuse. » Et il y a énormément de journalistes qui pratiquent ce journalisme de lien. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il faut un travail pour vous qui est extraordinaire, et pour moi aussi qui est extraordinaire. On appelle ça des curateurs ou des filtreurs d'Internet, si on veut. C'est des gens qui vont vous trouver eux-mêmes, parce qu'ils ont un savoir-faire extraordinaire de journalistes, ils connaissent bien leur secteur, et qui vont, à un moment donné, partager, trouver une information inédite et vous la diffuser. Plutôt que vous soyez obligé vous-même de faire un travail de recherche extraordinaire, eux-mêmes font le travail pour vous dans le secteur qui peut vous intéresser. Donc si vous suivez des dizaines et des dizaines de journalistes qui pratiquent ce journalisme de lien, eux font un travail pour vous de filtre de contenu du web et ils vous sortent la crème de la crème de la crème de ce que vous pourriez trouver sur le net. Donc le journalisme de lien, c'est assez extraordinaire. Si vous pouvez trouver, notamment sur les réseaux sociaux, des gens qui pratiquent cette forme de journalisme-là, c'est bien de les suivre si, évidemment, c'est des choses qui vous intéressent, si c'est un contenu qui peut vous intéresser. Moi-même, j'essaie de pratiquer plus ou moins du journalisme de lien, et on me qualifie parfois sur le net de curateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va filtrer, qui brasse beaucoup de données, et qui vous en extrait ce que lui considère être le meilleur, et après, à vous de faire ce que vous voulez avec. Donc vous pouvez être à la fois consommateur, mais aussi émetteur de ce journalisme de lien. Évidemment, pour l'écriture, ça change beaucoup de choses. Le journalisme de lien, c'est pas quelqu'un qui fait un article complet, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui vous donne les briques fondamentales de ce qui aurait pu lui permettre d'écrire un article complet. Un article, c'est toujours 2-3 informations que le journaliste a sous la main et qui va vous composer de façon sympathique et bien présentée, mais il y a en gros 2-3 informations essentielles. Ben, il y a certains journalistes qui, plutôt que d'écrire ça, vous donnent ces briques fondamentales de ce qui aurait pu leur permettre d'écrire ce billet. Et ce qui est sympa pour nous, parce que nous, on récupère directement l'information et nous-mêmes, on peut faire éventuellement un billet ou relayer ce journalisme de lien. Bon, il y a ça, il y a le journalisme de données ou de data, le data journalisme. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler une fois, non? Le data journalisme? Ça, c'est aussi un grand mouvement journalistique qui est apparu outre-Manche et qui correspond à une idée toute bête. C'est que il y a de plus en plus de journalistes qui commencent à trouver le contenu, à extraire du contenu qui a de la valeur en s'attachant uniquement à des bases de données. C'est des gens qui vont parcourir les bases de données du net, donc c'est des données brutes, c'est des tableaux qui sont absolument indigestes, des suites de chiffres, de données, de data qui peuvent venir d'institutions, d'administrations, ce que vous voulez. Et eux vont travailler cette matière-là pour en extraire quelque chose d'éditorialisé, quelque chose d'intéressant, de significatif. Et c'est vraiment en vogue dans beaucoup de rédactions aux États-Unis. Les journalistes de données sont extrêmement courus parce qu'il faut avoir évidemment une capacité de synthèse, à savoir faire un tout petit peu scientifique pour maîtriser ces données, c'est des chiffres, c'est des tableaux, c'est parfois un petit peu indigeste. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement couru et qui donne des choses assez fascinantes en ligne. Dans le journalisme de données, quelque chose qui s'en rapproche, vous avez, et là c'est quelque chose qui est plus ou moins lié, mais pas tout à fait, vous avez aussi le journalisme qui s'appuie un peu sur du crowdsourcing. Le crowdsourcing, ça vous avez entendu parler peut-être aussi, ou pas du tout ? Le crowdsourcing, c'est tout simplement, moi, en tant que journaliste, éventuellement, je vais rédiger un papier et je fais un appel à la communauté du web pour m'aider à compléter et à rendre mon papier pertinent. Je fais appel aux autres pour enrichir mon contenu. C'est ce que fait, par exemple, plus ou moins, Wikileaks, dont on a entendu parler un peu dans la presse ces derniers temps. Wikileaks, qui est une organisation qui fait à la fois du journalisme de données, c'est-à-dire qu'ils vont voler des données, des bases de données d'informations, et qui les délivrent à la communauté pour que les gens en fassent du sens. Donc ça, c'était, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire de Wikileaks en Irak, etc. Voilà. Alors, 2-3 autres choses avant que je lâche la parole un petit peu, juste pour vous donner encore un sort de panorama des expérimentations, des nouvelles expérimentations journalistiques ou d'écriture qui existent un peu aujourd'hui. Il y a, et ça, ça a l'air de rien, mais ça change beaucoup de choses. Alors là, les terminologies sont diverses et variées. Moi, j'appelle ça du journalisme de stream, mais on peut appeler ça du live reporting, enfin, où il n'y a pas de terme vraiment établi. Mais l'idée, c'est de profiter des nouveaux outils, et notamment des outils qui nous permettent de diffuser du direct, ou de diffuser en direct pour couvrir des événements. Auparavant, un journaliste, il va dans une manifestation, il revient, il fait son papier, il le publie. Là, un journaliste, aujourd'hui, peut être dans une manifestation avec son iPhone, il peut filmer, il peut monter, il peut diffuser alors qu'il est sur place. C'est une révolution totale sur la captation de l'information et la façon de la diffuser. Ça change aussi le terme Comment dire, quand on rentre chez soi, on a le temps de rédiger pendant plusieurs heures, de mettre en forme. Là, si on est sur place, évidemment, on met moins en forme. Donc on perd certaines choses, mais on gagne aussi d'autres choses. On gagne une proximité par rapport à certains événements. Il y a les tweets live. Il y a beaucoup de gens maintenant, aujourd'hui, même des journalistes, qui couvrent une conférence politique et qui font du live tweeting. Donc qui couvrent simplement les phrases importantes de la soirée et qui le tweetent. Ça change complètement, encore une fois, la façon de délivrer l'information, de rédiger de l'information en tant que journaliste. Et tout ça est évidemment lié aussi à la révolution de la mobilité. Avant, le journaliste écrivait, encore une fois, il rentrait chez lui, il rédigeait la chose. Là, la mobilité, encore une fois, les iPhones et tous ces appareils qui nous permettent de diffuser en direct changent fondamentalement la façon qu'on a de délivrer le contenu. Bon, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus que ça, et je vous parlerai peut-être tout à l'heure d'un cas plus précis, d'une expérience que j'ai menée depuis 2006 avec un collègue, et qui s'appelle blogtrotters.fr, où on a essayé de mélanger certaines des formes journalistiques dont je vous ai, dont je viens de vous parler. Mais je ne monopolise pas la parole et je laisse Marc gérer la chose.
Parce qu'il y a pas mal de questions là, dans ce que tu as dit.